Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Visible. Nous sommes à La Folie, dans le parc de la Villette, à Paris et en public. Parce que nos nuits sont essentielles, parce que nos nuits sont vitales, qu'elles permettent de se retrouver dans des endroits safe, qu'elles participent à construire nos identités, à s'assumer, à se connaître, se reconnaître, à militer, à exister. Et parce que nos nuits sont closes à cause du Covid, nous avons réuni trois activistes LGBTQ+, afin de raconter les histoires de nos soirées et leur importance dans nos communautés. Bienvenue dans Visible.
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 C'est parti.
Nous allons animer cette conversation à deux. Bonjour Sophie.
Bonjour Timothée, bonjour à tous.
Autour de la table, nous avons Rag du collectif Barbiturix qui organise les soirées lesbiennes Wet for Me. Salut Rag.
Salut.
Et aussi Amina, DJ. Hello.
Hello.
Et Yannick, aka Baby Bear de la soirée gay Ménergie.
Salut.
Merci à vous trois d'avoir répondu présente à notre invitation. Alors afin de rêver, on va commencer par un petit peu d'histoire.
On va commencer par Rag. Alors, qu'est-ce que c'est la Wet for Me et surtout comment ça a débuté? Enfin, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur l'histoire des soirées?
Alors, la Wet for Me a débuté il y a presque 15 ans maintenant. C'était la suite d'une soirée qui s'appelait la Clitorize, qui se trouvait à la Flèche d'Or. Le collectif Barbiturix s'est monté en 2004-2005 et c'était à l'époque un fanzine, un peu DIY. Et les filles qui ont créé le collectif ont voulu faire des soirées pour financer le fanzine. Et en fait, les soirées ont pris beaucoup d'ampleur assez vite. Donc ça, c'était d'abord à la Flèche d'Or et ensuite les Wet for Me, un concept beaucoup plus clubbing qui a d'abord démarré au Nouveau Casino et qui est maintenant résidente à la Machine du Moulin Rouge et au Nouveau Casino. Donc c'est une soirée lesbienne, majoritairement. Et voilà, donc on essaye de faire des choses pour les meufs et nos amis et nos alliés.
Et du coup, toi, tu mixes à chaque fois dans les soirées. Et est-ce que tu as eu tout de suite l'envie, justement, de participer en tant que DJ, ou est-ce que c'est venu plus tard?
J'étais déjà DJ, en fait. J'ai commencé à faire de la programmation via Barbiturix. Et c'est vrai que maintenant, je fais de la programmation pour d'autres choses où on me sollicite pour certains festivals. Mais c'est vrai que j'étais déjà DJ et c'est ça qui... j'en ai profité pour faire les closings de la Wet. J'aime beaucoup cet horaire.
D'accord.
Et comment t'as débuté dans la musique en tant que DJ?
J'ai commencé à mixer au Mixer Bar. Alors peut-être que toi, Yannick, ça te dit quelque chose.
Non,
ouais,
ça
remonte. Hein,
mais c'est les années 90.
J'étais bébé et c'est vrai que j'ai commencé à mixer grâce à une certaine sororité où il y avait déjà des filles qui étaient aux platines que j'admirais assez et qui m'ont pris un peu sous leurs ailes. Et c'est ça qui m'a aidé à me lancer, parce que c'est vrai, en tant que femme et jeune fille, c'était un peu compliqué à l'époque. C'était un petit peu difficile. En plus, il n'y avait pas les réseaux qu'il y a maintenant. On était encore mixé encore sur les vinyles, etc. Donc, c'était difficile pour une jeune fille de pénétrer dans un disquaire où il y avait des gars derrière. Tu n'oses pas trop un petit peu pousser la porte, etc. Mais c'est vrai, là, de voir des meufs derrière les platines et qu'on s'amuse ensemble, c'était hyper agréable. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé.
Ok, merci. Et toi, Amine, tu es DJ? Comment ça a commencé?
Un soir de 2008, je me suis retrouvé à la Java pour la soirée Flash Cocotte. À ce moment-là, je connaissais pas du tout ce monde et je me suis dit, je ne sais pas comment, ni quand, ni quoi, mais je veux travailler avec ces gens-là. Et petit à petit, je suis devenu ami avec les organisateurs de Flash Cocotte. Anne-Claire Gallet m'a appris à mixer sur le tard et je suis devenu aussi leur chargé de production.
Et toi, Yannick? La Ménergie, comment ça a commencé?
Ménergie, ça a commencé fin 2014. Dis-moi si, Amine, si je dis bien.
C'est exactement ça.
Moi, à la base, je suis pas fondamentalement DJ, je suis plutôt journaliste, puisque j'ai commencé à la radio dans les années 90, à FG. Et puis ensuite, j'ai été à Tétu, Radio Nova, etc. Donc, radio et presse écrite. J'ai vraiment commencé le DJing à l'époque, c'était au Bain Douche, une soirée qui s'appelait Yes Sir I Can Boogie, qui était une soirée bear et gay, avant que les bears deviennent à la mode, qui était une soirée électro et bear, et qui était faite par un jeune homme qui s'appelle Oscar Liani, qui fait Ménergie maintenant avec moi. Et en fait, j'avais dans l'idée, quand j'étais journaliste, j'avais dans l'idée qu'un jour je ferai une soirée, elle s'appellera Ménergie, parce que Ménergie, c'est un c'est pas un titre qu'on a trouvé nous, c'est pas un nom de soirée qu'on a trouvé nous, c'est le nom d'un morceau et d'un album de Patrick Collet, qui était un artiste mort du sida au début des années 80 et qui était un génie de la musique électronique, un pionnier des synthétiseurs. Le grand public a un peu retenu Giorgio Moroder en pionnier dans ce genre de musique, mais Patrick Collet est un autre pionnier qu'on a un peu oublié. Et voilà, c'est toute cette période de fin des années 70, début des années 80 à San Francisco, l'émergence d'une culture gay, les clubs cuir, les backrooms, les saunas, etc. Et j'avais envie d'appeler, parce que j'aimais beaucoup cette esthétique, j'aimais beaucoup la musique, cette musique. On dit que Patrick Collet a inventé la high energy, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et un jour de 2014, en travaillant un petit peu, en faisant une collaboration avec Anne-Claire de la Flash Cocotte, etc., je lui parle de ça. Je lui dis, tu sais, un jour, si je fais une soirée, je veux qu'elle s'appelle Ménergie, et j'aimerais, voilà. Et Anne-Claire, ayant toujours plus d'un tour dans son sac, me dit, bah écoute, ça tombe bien. Je lance des rendez-vous qui s'appellent Jeudi Hockey, des Jeudis Gays au Social Club, à l'époque. Voilà, ça sera tous les jeudis. Est-ce que ça te dit, on fait une soirée? Et j'ai fait, bah oui, banco. Et puis, ouais. Comme avec Anne-Claire, les choses vont très très vite, elle a une énergie de dingue. Elle me dit, bah voilà, on fait la première. Puis là, en première soirée, le DJ gay, ça sera Robert Owens. Et là, j'ai fait, mais t'es complètement folle, Robert Owens, c'est une légende de la house. Ça me dit, non, c'est bon, on l'a. Et,
voilà. Elle est venue,
et ça a démarré comme ça. Et ça a démarré comme ça. Et on a fait un peu plus de 200 personnes. Donc ça a démarré petit, et ça a tout de suite pris, de l'ampleur. On est passé après le vendredi, et ensuite on est allé au Gibus. Voilà.
Et alors du coup, il y a l'idée de créer des soirées, il y a l'organisation, et là je me tourne vers Rag. Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans l'organisation du fait que ce soit des soirées lesbiennes? J'imagine que ça doit être plus compliqué.
Ça l'était dès le début, hein. Depuis de nombreuses années, c'est très compliqué parce que c'est un public de femmes, majoritairement, et de lesbiennes. Donc c'est un peu un double problème.
L'intersectionnalité.
Voilà. Et puis ensuite, nous sommes des organisatrices de soirées, donc nous sommes une team de femmes. Donc il y a déjà un problème qui se pose déjà avec l'organisation en amont, les programmateurs qui ne nous font pas forcément confiance, avec qui il faut se battre, avec qui on a envie de programmer des jolies choses, de mettre des artistes femmes en avant. C'était compliqué parce que c'est vrai qu'ils ne voyaient pas trop. Et puis en plus, le fait de nous voir comme ça, une équipe de jeunes, un peu rock'n'roll, un peu comme ça, ils ont dit, bon, bah, ça va être facile avec elles, on va leur imposer un petit peu nos trucs et tout ça. Ouais. Sauf qu'ils se sont évidemment un peu leurrés. Mais c'est toujours compliqué, ça l'est encore aujourd'hui. Moi, maintenant, parce que ça fait 15 ans que je suis dans le métier, donc voilà. Mais c'est vrai que quand on arrive dans des nouveaux endroits, plus en région maintenant. Là, récemment, on a fait des soirées à Lyon il y a 3-4 ans. J'ai rencontré les mêmes problèmes que j'avais il y a 15 ans avec le nouveau casino, par exemple. D'accord. Avec des régisseurs qui ne t'écoutent pas, avec des gars de sécu qui s'en foutent, et même en amont des programmateurs qui ne se posent pas, qui n'ont pas envie de se remettre en question justement de ce que c'est d'organiser une soirée lesbienne, donc que ce soit au niveau de la sécurité. Déjà, la sécurité avec le public, du personnel de sécurité avec le public.
Il y a des problèmes.
Il y a toujours des problèmes, évidemment, parce qu'un gars de sécu ne peut pas se comporter et ne peut pas avoir le même comportement qu'avec une lesbienne qu'avec un gars un samedi soir qui vient juste boire. Et voilà. Bon, c'est pas du tout le même rapport. Un détail, par exemple, le papier toilette aux toilettes, ça c'est un truc, on n'a pas du tout le même rapport aux toilettes, c'est ça. Rajouter des toilettes pour les femmes, ça c'est pas... il y a toujours, on se plaint qu'il y a toujours la queue aux toilettes de la Wet For Me, mais c'est juste parce qu'en fait c'est pas adapté. Il y a trois toilettes fermées pour nous et il y a 15 pissotières. Donc à un moment donné, il y a un décalage avec ça. Ensuite, il y a tout un travail à faire en amont avec l'équipe de sécurité, avec le bar, comment gérer le flux à l'intérieur, à l'extérieur. Les files d'attente, on essaye de faire en sorte que les filles fassent le moins possible d'attente à l'extérieur parce qu'on sait que on fait des soirées soit à la Villette, soit à Pigalle. C'est toujours compliqué d'être une femme dans la...
Elles peuvent se faire emmerder.
Il faut être à la fois... c'est pas que dans le club, il faut aussi faire la police à l'extérieur, alors que c'est pas forcément notre rôle, ça l'est même pas du tout, mais on est obligé de le faire. Donc c'est pas mal de problèmes, mais c'est bien parce qu'il y a aussi il y a quand même une certaine écoute. Donc avec les années et le nombre de soirées qui ont été faites, qui ont été organisées, il y a quand même une remise en question qui est en route de la part des organisateurs. Donc là, je trouve que ça fait vraiment 2-3 ans qu'il y a beaucoup de collectifs qui sont montés, ouais. Des organisateurs qui se posent des questions. Mais il faut savoir que nous, ça fait 15 ans qu'on y travaille. Avant nous, il y avait le Pulp aussi. C'était le même problème. Donc ça va mieux. C'est pas encore là. Maintenant, il y a d'autres questions aussi qui se posent. Par exemple, pour les personnes trans, parce que c'est vrai qu'avant, les personnes trans étaient complètement invisibles.
C'est vrai.
Donc là, c'est des nouveaux... j'allais dire problématiques, mais c'est pas du tout ça le mot, mais c'est des nouvelles choses à prendre en compte et à gérer, et que c'est vrai qu'on faisait pas forcément. Enfin, je dis on, je parle pour tous les organisateurs, je parle pas que en mon nom, mais c'est vrai que ça reste compliqué.
Et du coup, toi, Yannick, de ce que tu racontais, on avait l'impression que ça avait été un petit peu plus simple. Et est-ce que aussi, parce qu'il y a peut-être plus de soirées gays à la base?
Bien sûr, il y a plus de visibilité. Ouais. Pour rebondir sur ce que disait Rag, nous, on connaît déjà parfois des problèmes avec la sécurité avec un public gay, donc oui. Mec avec mec, si tu veux. Alors, imagine, tu vois le gap, quoi. Moi, je sais que j'ai un souvenir, un de mes plus beaux souvenirs à Ménergie. C'est vrai qu'on est une soirée essentiellement gay, il ne faut pas se mentir, mais c'est vrai que quand on programme des DJ femmes, et par ailleurs, on a fait une pour les 5 ans de la soirée, on n'a fait qu'un plateau uniquement féminin, donc c'était les filles qui faisaient danser les mecs. Et j'aime bien ça, parce que c'est tout d'un coup, sur une ambiance très sexuelle, très sexualisée, très gay, d'avoir... Le côté, c'est les filles qui maîtrisent le dance floor et qui envoient le son et qui font vibrer les mecs. J'ai adoré ce truc-là. Et c'est quand politique. On m'a dit aussi qu'il y avait des filles qui étaient seins nus dans le fumoir, parce que notre fumoir est un peu particulier, parce qu'il ressemble parfois plus à une backroom qu'un fumoir. Et on m'a dit, mais tu sais, il y a des nanas, bon, elles sont en train de faire des trucs dans le fumoir. Et j'ai adoré ce moment-là, parce que je me suis dit, là, il y a une petite victoire. Parce que si elles se sentent safe dans un environnement... masculin, parce que les mecs gays, avant d'être gays, ils sont quand même des mecs, faut pas l'oublier. Et moi, la misogynie dans le milieu gay, c'est mon combat perpétuel. Voilà. Je me fâche avec beaucoup de copains sur ces questions-là. Et d'avoir ça, je me suis dit, waouh, là, je suis content d'avoir fait cette soirée, parce que si elles se sont senties en sécurité, c'est que quelque part, on avait quand même bien fait les choses. Mais oui, c'est beaucoup, et ne serait-ce que pour les endroits lesbiens, il y a très, très, très... Rag, reprends-moi, mais par rapport au nombre de bar gays, de sauna, de backroom, etc., etc., combien il y a d'établissements lesbiens
à Paris? Il y en a un bar, la Mutinerie, qui se dit pas en plus bar lesbien, qui se dit bar queer. Mais c'est vrai qu'en plus, ça c'est un autre truc, c'est que le queer absorbe un petit peu justement le combat des lesbiennes, où justement il faut absolument que ce soit le plus inclusif possible. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de lieux où les gays ont leur lieu et sont, que les femmes, déjà, on est beaucoup plus inclusif de nature. C'est-à-dire que nous, on va tout de suite inclure beaucoup plus. C'est de notre histoire, de toute façon. Mais pour rebondir sur le fait du topless, par exemple... à la Watt, les filles sont topless, c'est sûr, mais au début, ça a posé problème parce qu'il y avait des mecs de sécu qui allaient voir les filles en leur disant « Rhabillez-vous !» Donc ça, c'est, par exemple, ça a été un problème. Alors qu'il y avait des gars qui pouvaient être... Il y avait nos copains PD qui étaient torse nus. Donc c'est ça sur lequel il a fallu travailler. Comme quoi, le corps des femmes, c'est toujours un problème. Maintenant, ça l'est beaucoup moins. Et c'est vrai que le fait de se mettre topless en soirée, pour nous, c'est hyper politique. C'est pas juste pour draguer ou quoi. Parce qu'en plus, nous, on a plus l'injonction du corps. Donc tout de suite, quand on sent qu'on a une grosse poitrine ou qu'on se sent mal à l'aise et tout ça, il y a beaucoup plus d'injections sur le corps des femmes que le corps des hommes. En tout cas, arrête-moi si je me trompe, mais je crois. Et c'est vraiment politique de le faire. Donc c'est vrai que maintenant, c'est vrai qu'à la boîte, les filles, il est 23h30, ça a ouvert depuis 30 minutes, elles sont déjà topless.
Voilà, mais
parce qu'elles n'ont pas l'occasion de pouvoir le faire quand elles vont au parc. Là, quand je suis arrivée tout à l'heure, je voyais encore des gars qui faisaient du running en. Mais moi, si je fais un running topless, ça va pas être.
C'est un symbole. C'est fort dans les soirées. Ça veut vraiment dire que ce sont des endroits de safe, quoi. C'est vrai que c'est vraiment un.
Mais je crois que ça change avec la nouvelle génération.
Ah oui, mais complètement. Oui.
Clairement.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fluidité comme ça dans les dans les représentations, dans les comportements et tout ça, qui est beaucoup plus naturel, c'est presque plus une question, quoi. Voilà, donc tant mieux, quoi.
Oui, oui, c'est sûr, ouais, voilà. C'est sûr.
Bah, on dit beaucoup que ça change, mais c'est quand même long à changer
les mentalités. Parce que... Mais parce qu'on vit dans un monde qui est régi par les hommes, pour les hommes, avec des représentations essentiellement masculines. Et je te dis ça, et je fais une soirée qui s'appelle Ménergie, tu vois. Mais je pense qu'on peut... nous, on défend... l'érotisme autour du corps masculin et tout ça, mais on peut défendre ça sans avoir une masculinité toxique, oui. Tu vois, voilà, donc c'est ça qu'on essaye de définir. Et toi, par exemple, un de nos guests les plus récurrents à Ménergie, c'est Jennifer Cardini, elle est venue trois fois.
Qui n'est pas un homme.
Qui n'est pas un homme.
Jusqu'à preuve.
Tu lui demanderas. Mais je ne sais pas comment elle peut se définir, mais je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Mais voilà, elle adore venir à la soirée parce qu'elle aime bien l'énergie qu'il y a dans cette soirée. Et les clubbeurs adorent. Oui. Et c'est quand même. Voilà. Ouais. Je trouve ça sympa que ça soit celle qui soit revenue le plus souvent de toute l'histoire de la soirée.
Et Amina, toi, du coup, tu es gay et racisée, et tu joues que dans les soirées gays, ou est-ce que tu as eu l'occasion d'être dans des soirées où tu avais pu subir des comportements homophobes, racistes
Non. Ça, enfin, non je pense pas. Je réfléchis rapidement, mais je me suis enfermée dans la communauté LGBT pour une raison aussi, je pense.
Oui, bah oui.
Mais si pour répondre à cette question, je dirais que même au sein de nos communautés, il y a aussi un espèce de racisme, ou plutôt, peut-être pas du racisme, mais il y a un corps en particulier qui est mis en avant. Le corps d'un mec plutôt bien foutu, blanc, avec une certaine situation sociale. Je me suis retrouvé notamment dans pas mal de soirées comme ça. Et récemment, j'en ai pris un peu conscience. J'ai pris conscience qu'il y avait un peu ce décalage entre cette appellation queer et ce qu'en fait était réellement la soirée. Je vais être un peu méchant, je pense, mais je pense pas qu'on est queer parce qu'en fait, on met du vernis et qu'on fait des touzes avec ses potes. Désolé. Et j'en suis arrivé à cette conclusion-là. Et donc, c'est tout un mécanisme qu'on met en place pour survivre aussi. Parce que sinon, je veux dire, moi, en tant que gay, assumé et racisé... Si je m'étais pas adapté à cette situation-là, je serais allé dans aucune soirée, j'aurais mixé pour personne. C'est un constat que je fais aujourd'hui, mais c'est aussi cool parce que c'est aussi mon histoire et j'avance et je déconstruis certaines choses et c'est intéressant.
Et du coup, on parle d'inclusivité. Enfin, tu viens de parler d'inclusivité. Là, j'ai une question aux deux organisateurs, organisatrices de soirée. Est-ce que quelle importance vous donnez à l'inclusivité ou à l'identité de genre ou sexuelle de vos line-up ou des gens que vous invitez?
C'est très important, hein. C'est hyper important parce que c'est vrai que moi j'avoue, la première, il y a 10 ans, il y a 15 ans, je me posais moins ces questions. Et c'est grâce justement au travail de beaucoup d'organisateurs, le fait aussi que j'essaye de me déconstruire et de m'informer, etc., que vraiment j'essaye de m'ouvrir sur d'autres musiques, d'autres communautés, et qui rencontrent le problème que moi j'ai rencontré il y a 15 ans. Et que, évidemment, quand tu as envie de faire les choses bien et que tu te dis politique et tu te dis inclusive, etc., que tu essayes d'inviter, effectivement, des artistes queer, des artistes racisés, des artistes... Voilà. Après, moi, il faut vraiment que la musique soit de qualité, mais je vois pas pourquoi... il y a beaucoup trop d'artistes qui sont encore invisibilisés et qu'il faut aller chercher. Et il y a des organisateurs, ils prennent pas cette peine-là. Donc c'est important. Et après, moi, j'ai pas envie de prendre la parole pour ces personnes-là et ces communautés-là, parce que je ne le suis pas. Je suis blanc, je suis cis. Donc je vais pas prendre la parole pour une personne racisée trans, c'est clair. Mais par contre, oui, je vais essayer de me déconstruire et de m'informer et d'essayer de m'entourer aussi et de laisser la place petit à petit, c'est normal.
C'est important de se remettre un peu en question à chaque fois, quoi. C'est-à-dire, c'est vrai que faut pas oublier aussi dans le système du booking des DJ, tout ça, il y a aussi des modes, il y a aussi tout d'un coup des DJ qui sont plus à la mode que d'autres, donc il y a un peu... Du pressing qui est fait avec les bookers et tout ça, mais c'est vrai qu'on oublie des pans entiers pourquoi on n'a pas de DJ du continent africain, pourquoi on n'a pas de DJ tout ce qui se passe en Amérique du Sud et tout ça. Il y a des pans entiers comme ça qui sont pas mis en avant, et du coup, quand on est un peu paresseux, on va peut-être alors c'est vrai que quand on démarre une soirée, on démarre avec les artistes qu'on aime. Nous, on a fait ça comme ça, voilà, les gens qu'on avait envie d'inviter, dont on avait rêvé, voilà, et qu'on peut, voilà, qu'on peut avoir. Donc on commence comme ça. Mais je pense que sans cesse, il faut un peu
aller chercher,
un peu se creuser la tête et tout ça. Et moi, je vois passer plein de choses sur Facebook, notamment des organisatrices ou des agents femmes qui disent, ouais, on a regardé les line-up des festivals de cet été. Bon, bah, encore une fois, 2021, vous n'avez rien compris. Il n'y a que des mecs, quoi. Donc et quand on entend des organisateurs de festivals qui disent « Ouais, mais c'est compliqué. »
Faut juste chercher, en fait.
Mais je trouve qu'il y a un espèce de politiquement correct qui se met en place et qu'il y a des gens qui essayent encore de prendre la parole sur ces problématiques et qui essayent de faire des programmations. Tant mieux, les programmations ont lieu, mais tu sens que, dans le fond, il y a quelque chose qui est plus dans le paraître que dans le vrai politique. Et ça, c'est encore plus agaçant, je trouve, parce que c'est une espèce de...
Un peu comme du pinkwashing.
Ouais, c'est ça, exactement.
On se donne bonne conscience.
Je suis tout à fait d'accord. Ça me rappelle un promoteur, je vais pas citer de nom, mais qui m'avait dit, pour la journée des droits de la femme, bah, en fait, on a booké une femme.
Ouais, d'accord.
J'étais genre, ok, c'est merde.
Et lui offrir une rose, du coup, comme ça, c'est... Voilà.
Mais en plus... Cette personne-là était complètement... elle pensait vraiment bien faire. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, j'ai dû lui expliquer... Bon, je vous cache pas que c'était dans un backstage d'une soirée, donc avec un peu d'alcool, mais j'ai dû prendre de mon temps pour lui expliquer à quel point c'était pas OK de faire les choses comme ça.
Moi, ça m'est déjà arrivé de m'engueuler avec des clubbers. Alors, assez peu, hein, finalement. Hein, parce que nous, comme on programme, en plus, beaucoup de house, moi, je crois vraiment que la musique que tu programmes, que tu diffuses, a une influence énorme sur le comportement de tes clubbers. Et comme nous, on a une musique qui, voilà, l'importance du warm-up, l'importance de commencer comme ça, de faire monter petit à petit la température, de pas bastonner tout de suite avec des choses à 140 en warm-up, enfin, une sorte de mur de son qui t'inquiète. Où il y a une injonction tout de suite à être performant, prendre la drogue tout de suite, monter tout de suite, galocher tout de suite, sortir avec quelqu'un tout de suite. Bon, il y a une entrée en matière, ça donne des comportements différents. Mais je me suis déjà engueulé avec des gays misogynes. Faut bien dire ce qui est. Et moi, je leur dis, si t'es gay et misogyne, t'as rien compris au fait d'être gay. Ouais. Mais vraiment, c'est la base, quoi.
Moi, je trouve qu'il en reste beaucoup d'épées des misogynes, hein, vraiment. Hein. Bah, je trouve qu'il y en a encore beaucoup.
Il y en a encore énormément.
Et même des jeunes, autant de notre génération, on est offense, hein, Yannick, hein, tu sais, on est... Nos générations, ça excuse pas, mais on a l'habitude, j'ai envie de dire, mais j'ai quand même encore l'impression que même chez les jeunes, il y a des jeunes gays qui... Il y a quand même encore un...
Oui, ou
il y a un vrai travail à faire. Il y a un vrai travail à faire chez le milieu gay, en fait.
Oui, oui.
L'âge aussi, ouais.
Le fait que moi j'ai 50 balais, si j'ai envie de danser torse nu, rien à foutre, tu vois. Et si ça te plaît pas,
c'est pareil,
c'est ça. Enfin, je pense que c'est... Enfin, je suis pas une femme et donc je ne sais pas ce que c'est, mais je pense qu'il y a vraiment un gros problème de discrimination au sein même de nos communautés, encore une fois. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre, peut-être parce que je suis une personne racisée et que je le vis au jour le jour, mais j'arrive pas à comprendre comment une communauté qui est elle-même minoritaire dans une société qui est un peu hostile, et qu'au sein même de ces communautés qui est des différences, on se tape dessus. C'est quelque chose qui m'échappe.
Et je pense qu'il faut faire un peu d'histoire, c'est-à-dire rappeler que au début de la lutte contre le sida, les femmes étaient en première ligne, que dans les assos...
Les lesbiennes ont fait beaucoup pour la lutte contre le sida.
Exactement, que dans les assos cuir, les premières assos cuir, BDSM et tout ça, à San Francisco... Les femmes et les lesbiennes étaient en première ligne.
Même les émeutes de Stonewall. Hein,
et les trans.
On parle des trans et il y avait quand même une butch qui était là en train de aussi balancer des cailloux sur les keufs. Ouais. Bien sûr, mais elle a été complètement invisibilisée, par exemple, cette personne. On parle beaucoup son nom m'a échappé, mais je vais le dire tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a...
Marsha P. Johnson.
Laverie ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Son nom m'échappe. Et qui était vraiment une butch. Et par contre, elle a été complètement invisibilisée des émeutes de Stonewall, alors qu'il y avait eu beaucoup d'articles justement sur les gays, c'est la révolte des gays. Mais non, c'était aussi des gays, des gouines, des queers, des trans, des traves. C'était voilà. Mais bon.
Mais encore une fois, on a mis quoi en avant? L'homme blanc.
Non, mais c'est clair.
Certes homosexuel, mais l'homme blanc.
Il reste blanc, donc ça va, il se confond dans le paysage.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Enfin, je lisais un mème l'autre jour, je pense qu'on l'a tous vu ici, un mème qui disait, en gros, que les straight acting n'ont rien fait pour nos droits et que c'est plutôt les queers assis et les trans qui sont allés se battre à chaque fois qu'il y a une révolution et à chaque fois qu'on a eu des droits, c'est grâce à ces gens-là. C'est pas les gens qui essayent de se cacher ou qui essayent de... Pas qu'il y a un problème à se cacher, hein, ça regarde chacun, mais ce que je veux dire, c'est que les personnes qui ont mené les combats sont les personnes qui sont les plus discriminées, finalement. Et les plus radicales. Et je pense qu'en fait, il faut de la radicalité pour obtenir des droits et des changements à chaque fois. Et la radicalité, finalement, au bout d'un moment, finit par devenir une norme.
Mais on l'a vu dans les manifs pour le mariage pour tous, il y avait des gays, il y avait des lesbiennes, il y avait des trans. Là, sur la PMA, ils sont plus là, les gays. Hein. Ils sont partis.
Il y en a moins.
Sur le mariage pour tous, j'ai assisté à une scène assez flippante. Un ami qui s'appelle Félix Marotto, qui se trouve avec un espèce de manteau de fourrure et il était verni. Et il y a deux personnes qui l'ont agressé en lui disant « Non, mais on avait dit qu'on faisait soft et normal. »
Mais il y a eu le débat, d'ailleurs, là, ce mois-ci, aux États-Unis et un peu sur les réseaux sociaux, donc ça reste les réseaux sociaux, mais quand même, justement, des jeunes gays qui veulent interdire des bears, des butch au Pride, tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça.
Non.
Oula.
Il y a un super article de... Super le nom. Il y a un article qui est sorti ce matin dans le média Mademoiselle. Bref, je vous conseille cet article que je mettrai en lien et avec le vrai nom de l'autrice parce que je me suis peut-être trompé. Moi, j'ai une question quand même pour Rag par rapport à la Wait For Me. Mettre 2000 lesbiennes dans la machine du Moulin Rouge, en quoi c'est politique ?
Elles n'ont pas d'espace. Tu as déjà vu un endroit où il y avait 2000 lesbiennes ? Ben voilà. Je pense que je pourrais ne pas être la seule à le faire. C'est juste qu'il y a un manque. Il y a un manque d'espace pour les filles. Après, c'est vrai que nous, on travaille aussi pour essayer de faire les choses bien. Donc, la soirée a grossi, et donc ça, il y a eu du bouche à oreille, etc. Mais c'est vrai que c'est hyper politique. Et puis même pas que 2000 lesbiennes, de mettre 2000 femmes dans un seul lieu, bien sûr. Je t'assure que la place, parce que nous, on fait ça à Pigalle majoritairement. Ouais. Pigalle change le temps d'une soirée, change d'univers, quoi. Change de couleur, vraiment, vraiment. Et après, c'est vrai que il y a les couacs qui vont avec, quoi. C'est vrai que forcément, hein, quand il y a 2000 lesbiennes qui arrivent, qui prennent le métro, qui sont dans la rue, bah il y a tous les touristes, les gars qui zonent, etc., qui sont là aussi pour les accueillir. C'est un travail de tous les jours, mais c'est super. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est que j'invite des artistes des fois qui savent que c'est une soirée lesbienne, ok, etc., mais quand ils arrivent sur place, quand elles arrivent sur place, majoritairement, elles hallucinent vraiment, elles sont très surprises. Parce que c'est vrai que je crois qu'une soirée comme ça ne peut avoir lieu qu'à Paris, en vrai. Parce qu'à Berlin, les soirées sont déjà beaucoup inclusives. Et les femmes ont déjà plus de liberté, en fait, dans la rue. Donc elles ressentent pas le besoin de se réunir entre elles et de se sentir safe, en fait. Donc je crois qu'une soirée comme la Wait For Me n'a pas lieu d'être à Berlin ou à Londres, parce que déjà ça se mélange, déjà ça se passe bien, déjà ça se passe mieux. Et en fait, à Paris, on vit encore le sexisme, l'homophobie, etc. Donc oui, les femmes et les lesbiennes ont encore besoin. Après, il n'y a pas que des femmes et des lesbiennes, hein. Y a aussi les copains PD, les copines et les copines trans. Enfin, je veux dire, on a toujours voulu ouvrir la porte. Mais c'est vrai que maintenant on la ferme de plus en plus, parce que c'est vrai qu'avec le succès que ça a eu, il y a plus en plus de mecs, en fait, qui essayent de venir. Donc on est obligé de passer par des subtilités pour éviter que ça couacque. Mais après, c'est vrai, il y a aussi beaucoup de lesbiennes qui veulent venir avec leur meilleur pote. On dit ok, c'est cool, mais après, le meilleur pote, au bout d'un moment, même s'il comprend qu'il est hyper ouvert quand il arrive, des fois, le naturel revient à galop à 3h du matin. Le meilleur pote, c'est un gros relou, en fait. Et alors qu'il est venu avec sa copine lesbienne, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est sportif de faire une soirée lesbienne, vraiment.
Et toi, Yannick, tu dirais du coup que l'organisation des Ménergies, c'est un acte militant ? À la base, est-ce que tu l'as vu comme ça, ou c'était plus pour l'envie de faire...
Dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin des clubs, on n'aurait pas besoin des bars, on n'aurait pas besoin des assos, vous voyez, mais on n'est pas dans un monde idéal, donc on a besoin de ces endroits-là, et les clubs sont de la même manière que les bars, les saunas, les backrooms, les lieux de convivialité, les assos sont des espaces essentiels pour se retrouver, pour quand un voilà, moi je fais partie d'une génération en plus qui a découvert sa sexualité, son identité, Internet n'existait pas, donc il n'y avait pas cet accès à l'information, enfin il fallait faire beaucoup d'efforts pour avoir accès à l'information, ou alors on l'avait de manière comme ça un peu par hasard. Moi j'ai découvert la musique par les mots, j'ai découvert la musique par les mots de Didier Lestrade dans la presse, quoi. C'est-à-dire que j'ai découvert la musique en lisant les mots d'un autre, ouais, qui m'expliquait que c'est pourquoi c'était important, pourquoi telle chanson disait beaucoup du fait d'être gay, de la sexualité, la drogue, etc. Donc j'ai découvert ça après. C'est-à-dire que j'osais à peine aller chez les disquaires, aller en club, c'était compliqué. Donc oui, ces endroits, ils sont essentiels. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, voilà. Oui, c'est, oui. C'est, et puis bon, nous, on n'est que organisateurs, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas de lieu à nous, on est aussi tributaire de l'organisation, des patrons de club, de tout ce qu'on a dit, la sécurité, et tout ça. Donc on essaye de faire comme on peut, mais parfois on bute face à d'autres réalités.
Je voulais rebondir sur le fait que je trouve que la jeune génération ne veut plus aller en club, justement. Ne veut plus être tributaire. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de rave parties, il y a de plus en plus de soirées alternatives,
oui,
où justement la jeune génération queer et LGBTQIA ont plus envie d'aller en club, ou vont faire la teuf ailleurs avec leurs propres moyens. Et ça se passe bien des fois, ça se passe mal parfois aussi. Et moi, je trouve que là, j'ai l'impression que, en plus, particulièrement en temps de pandémie, où le club est resté fermé, il y a de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a plus une envie de fête alternative que d'aller dans un club avec un videur, un vestiaire, etc. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Amina, mais moi, ça me semble.
Je pense que c'est aussi lié au fait que c'est très. Enfin, pour avoir travaillé dans pas mal de clubs, et en tant que chargé de production, et en tant que DJ. Il y a peu de clubs où en fait on est bien reçu par la sécurité en tant que personne LGBT. Je pourrais vous donner une liste de clubs où la sécurité est vraiment homophobe, on n'a pas envie de remettre les pieds là-bas. Donc l'idée de faire des soirées en dehors des murs, organisées par soi-même, je pense que c'est aussi pareil, ce truc un peu en non-mixité, c'est-à-dire qu'on se retrouve au sein avec notre communauté, entre nous, et on sait très bien que les organisateurs ou les personnes qui vont gérer la sécu vont pas nous discriminer, on va pas se prendre une insulte homophobe. J'ai assisté à des scènes, je pense comme nous tous ici, hein, j'imagine, même si c'est pas des insultes homophobes, on sent l'hostilité parfois. Et je pense que c'est même encore plus dur de sentir juste l'hostilité que l'insulte. On se sent pas accueilli, on n'est pas à l'aise. Et à un moment où en fait on est censé se libérer et se retrouver entre nous, enfin, entre nous et plus, hein, je veux dire, j'ai pas de problème à faire la fête avec des gens hétéros, hein, qu'on se dise. Enfin, je parle en mon nom, hein, c'est très compliqué pour moi de parler de ces questions-là parce que j'ai toujours peur de dire une bourde, mais je parle comme non. Et j'ai perdu le fil, mais oui, donc voilà pourquoi en fait il y a une tendance à vouloir de plus en plus sortir des clubs parce qu'il y a très peu de clubs en fait qui nous accueillent correctement. Je pense qu'il y a La Folie, La Station, La Machine du Moulin Rouge, ça se passe parfois bien, mais j'ai aussi certains échos où c'est un peu compliqué. Donc oui, c'est compliqué. Ouais. Donc voilà pourquoi en fait il y a ce. Mais c'est pas que lié à ça. Je pense qu'il y a aussi cette envie de liberté vraiment. Et quand on est dans un club qui est institutionnel, bah c'est plus compliqué tout simplement.
Bon, nous on est bien au Gibus. Hein. Non mais bon, faut aussi dire que moi je pense pas que le club soit totalement terminé. C'est de la même manière. Moi je viens de la presse. On m'a dit un nombre incalculable de fois que la presse écrite serait morte d'ici l'année prochaine, et puis elle est toujours là. Et il y a plein de projets intéressants qui sortent. Il faut juste un petit peu faire marcher son imagination et sortir des sentiers battus et offrir des choses originales. Moi, je pense que tant qu'on n'aura pas des gens vraiment concernés à la tête des établissements, on n'en sortira pas. Je me souviens de cette phrase de Didier Lestrade qui avait dit son plus gros regret, c'est que par exemple des gens comme les Daft Punk n'aient pas ouvert un club à Paris. C'est-à-dire avec leur succès, avec leur rayonnement, avec tout, voilà, pourquoi alors que le clubbing leur a tant apporté, pourquoi ils n'avaient pas investi dans un club avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire enfin mettre des professionnels, des gens qui savent ce que c'est que régler du son, voilà, l'accueil, le dance floor, la qualité de tout ça, voilà, parce que c'est pas que l'accueil des LGBT, c'est aussi tout le reste, hein, c'est-à-dire travailler dans des bonnes conditions. Le club, c'est d'abord un bon son, donc on a en droit de réclamer d'avoir du bon son, voilà, ouais,
c'est sûr.
Toutes ces choses-là qui font que je pense que le clubbing n'est pas terminé. Effectivement, il y a une envie de faire la fête autrement, de faire la fête dehors, etc. Mais le club reste quand même, pour moi, un endroit aussi de chaleur, d'espace convivial, d'espace safe. Et on peut faire encore de très, très, très belles choses dans un club. Et j'espère que c'est pas terminé.
Mais comme tu le dis, il y a une envie de faire la fête. Et du coup, là, je vais entamer un nouveau chapitre. Je voudrais faire appel à vos souvenirs et surtout vos tout premiers souvenirs de soirée. Rag, c'était comment ta première fois dans un club ?
Alors, la toute première fois, je dirais pas.
D'accord. La deuxième.
Voilà. Et la deuxième, non, quand j'étais jeune, je traînais beaucoup au Folies Pigalle.
Ouais.
C'est curieux parce que c'était vraiment un endroit qui est complètement décadent, crade.
C'était sale.
Vraiment, c'était sale, quoi. C'était sale. Moi, j'avais 18 ans et donc j'adorais aller là-bas, ouais. Donc c'était, mais j'étais un peu fascinée parce que je pense qu'il y avait tout ce qui était le plus décadent possible. Il y avait toutes les communautés. C'était, tout le monde était drogué, ça baisait partout. C'était vraiment crade et je sais pas. Je sortais de ma banlieue un peu chic, donc j'avais envie de m'en canailler et ça m'a donné beaucoup d'envie à tout point de vue.
Et toi, Amina, du coup?
Ma première soirée, je l'ai très mal vécue, je pense. C'était un bar du Marais. Je vais dire le nom, mais c'est pas méchant, mais c'était un truc comme le Red Bar. Et je m'étais pas du tout senti à l'aise. Pourtant, en fait, je devais avoir, je sais pas, quelque chose comme 16 ans, et la société me renvoyait que c'était ça d'être homosexuel. Et je me sentais vraiment pas à l'aise là-bas, mais ça m'appartient. Et un jour, quand j'ai découvert justement Flash Cocotte, c'est là où j'ai eu l'impression de faire ma première vraie soirée, où je me suis senti tout de suite à l'aise. Et puis j'ai découvert aussi ce son que je connaissais pas. Il y avait autant de gens mélangés. Et surtout, en fait, ce truc de genre freak, et c'est OK. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis dit que là, je pouvais être qui je voulais sans me sentir jugé, sans me sentir en décalage avec ce que la société peut me renvoyer ou qui je suis.
Et toi, Yannick, du coup ?
Alors, moi, on va remonter aux années... je crois que c'était fin des années 80, début des années 90. Ne partez pas, c'est bon, restez. C'était à la Luna. Ça n'existe plus, évidemment. C'était dans le quartier de la Bastille. C'était une boîte avant de devenir un sex club après. Il y a Laurent Garnier qui jouait là-bas, qui avait une résidence à la Luna. Et donc, je découvre... J'avais quoi, 18-19 ans, quoi. Donc, je découvre Laurent Garnier, La House... Je me souviens qu'il passait un morceau qui s'appelait Move Your Body, je ne me rappelle plus le nom du compositeur, mais enfin, ce morceau est resté en mémoire. Donc je découvrais la house, les stroboscopes, le poppers, les gays, tout en même temps, quoi. Et pas la drogue encore, même si là, on peut estimer que la poppers est quand même une entrée en matière. Et là, je me suis dit, bon, ça y est, c'est bon, quoi, c'est ça, quoi. Voilà, cherche pas, c'est ça que tu veux.
Et alors, on le disait en intro, et c'est l'essence même de Visible, nos nuits participent à construire nos identités.
Et pour parler de l'importance, justement, des soirées LGBT qui ont motivé cette émission, en quoi, à votre avis, et on l'entend un petit peu via vos expériences, elles sont essentielles pour les publics, justement, que vous visez?
Il se trouve que je fais partie aussi de Ménergie, ou d'autres soirées, mais je pense que c'est très important, parce que je me rappelle juste, moi, à mes 14 ans, j'habitais en banlieue déjà depuis quelques années, on avait quitté Paris, et quand j'avais besoin... Vous savez, c'est comme par exemple, la première fois que j'ai acheté mon Tétu Magazine, c'est juste une question de visibilité, c'est juste à ce moment-là, je me suis dit... Ah ok, pour moi, dans mon expérience, ah ok, chouette, en fait, il y a des gens comme moi et je ne vais pas finir en enfer et c'est ok de s'amuser. Oui, non, parce que j'ai vraiment envie, on en rigole, mais j'avais cette croyance en tête que j'allais finir en enfer parce que je suis homosexuel. Et j'ai l'impression de me répéter, mais je pense que c'est important pour les publics, pour les jeunes aujourd'hui. Mais ceci dit, je pense que la vie est un peu plus facile pour eux que pour les anciennes générations en tant qu'LGBT, mais peut-être que je me trompe, j'ai encore une fois, j'ai peur de dire une bêtise. Bah, je pense que c'est un peu plus admis quand même, non? Je te vois, Yannick.
Ouais, mais il y a d'autres problèmes. Moi, je suis très, très préoccupé par ce qui se passe autour du chemsex et tout ça en ce moment. Ah. Enfin, moi, je les ai vus, mes clubbeurs.
Ouais, tombés.
Enfin voilà, j'ai beaucoup d'appréhension de savoir comment je vais retrouver les gens, parce qu'on va bientôt. Enfin, on va bientôt. On devrait réouvrir à un moment donné, mais enfin, ça va arriver. Et je suis très très inquiet de ça, quoi. C'est-à-dire là, l'importance des lieux, c'est aussi ça. C'est-à-dire que on est là aussi pour du soutien. On est là aussi pour, parce que ça parle aussi dans les clubs. Ça fait pas que
bien
danser.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà, il y a de l'échange. On sait qu'on est là, voilà. Donc c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et ça me mine un peu ce qui se passe en ce moment, cette épidémie dans l'épidémie, quoi. Voilà, donc l'importance de ces lieux, oui, c'est de ces fêtes, c'est aussi ça, quoi.
Alors, c'est très cocasse que je sois à côté de Rag, parce que je crois que c'était en 2017, Rag m'a interviewé sur Rins. Et elle me demandait, je sais plus c'était quoi la question, mais c'était est-ce que je sentais que l'homophobie était de plus en plus présente, et je lui avais répondu quelque chose, que je trouvais que les choses allaient dans le bon sens. Et in fine, aujourd'hui, quelques années plus tard, bah, je suis pas d'accord avec ce que je disais, en fait.
D'accord.
C'est-à-dire que, alors peut-être qu'on peut dire que les choses vont dans le bon sens, mais le problème, c'est que tant qu'il y a oppression, on s'en fout de savoir si ça va dans le bon sens ou pas. Tant qu'il y a oppression, il y a toujours combat, et il faut continuer. Et ces lieux, ces soirées, justement, nous permettent, encore une fois, je me répète, hein, désolé, mais de se retrouver dans un endroit safe. On sait qu'on va pas être jugé, on sait qu'on va voir des gens comme nous, et potentiellement aussi draguer, potentiellement baiser, et s'amuser.
Avec le Covid, les confinements, les couvre-feux, c'est un peu dur, voire très dur au niveau du moral. On sait aussi que le public jeune LGBTQ+, sont plus précaires, soumis à plus de violences intrafamiliales, notamment en ce moment, ou sociales. Plus de discrimination, plus de solitude. Est-ce que vous gardez du lien avec vos publics? Comment vous gardez du lien avec vos publics? Est-ce que c'est facile de garder du lien avec vos publics en ce moment?
Bah, c'est essentiellement les réseaux sociaux, déjà. D'essayer de nous, on a fait un peu de stream. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est ce qu'il y a de plus important là, en ce moment. C'est vrai que là, en tant que pandémie, on ne peut pas se voir en réalité. C'est vrai que là, c'est la première fois qu'on... Là, on est là aujourd'hui, on enregistre le podcast, mais pour moi, c'est la première fois que je reviens à la folie à l'intérieur, en tout cas. Donc, c'était un peu le seul moyen. Après, c'est vrai que notre communauté a été beaucoup plus impactée, je pense, que d'autres, parce que justement, comme on a ce besoin de se sortir, de se retrouver, parce que justement, on est stigmatisé encore tout le temps, partout, au travail, dans la rue, dans la famille. Bah, le fait de nous enlever justement cette fête qui est un peu notre seul exutoire, bah, on se retrouve encore plus isolé, quoi. Et ça j'ai l'impression que nous on le sait, on le comprend, mais il y en a beaucoup quand je parle de ça, je parle avec mes voisins, avec ma famille, qui sont pas forcément dans ces problématiques et dans ces questionnements, en tout cas ils sont de ah quoi, qu'est-ce que tu dis encore,
mais
en fait c'est une réalité vraiment, mais c'est pas qu'ils sont forcément homophobes au fond d'eux, c'est qu'ils se rendent pas compte, ils savent pas, en fait. Ils savent pas, c'est l'ignorance.
Pour rebondir là-dessus, les confinements successifs et le fait qu'on n'ait plus l'occasion de se retrouver et qu'on est d'un coup devenu illégal, je l'ai un peu vécu comme à l'époque où je n'avais pas encore fait mon coming out et que j'avais l'impression de ne pas être légitime, de ne pas avoir le droit d'exister.
Ouais,
ça m'a renvoyé un peu à ça. Puis après, oui, c'est compliqué d'entretenir un lien. Bon, il y a toujours les réseaux sociaux. Et puis, bon, je vais pas vous mentir, j'ai mixé dans des teufs privés illégales aussi un peu. Et heureusement que je l'ai fait pour ma santé mentale. Mais c'est vraiment... Enfin, il y a un truc aussi complètement surréaliste aujourd'hui. C'est-à-dire que là, les lieux commencent à réouvrir et je ne sais pas comment je vais accueillir la prochaine fois que je vais mixer devant un vrai public dans un club. C'est-à-dire que oui, j'en rêve, mais concrètement, je ne sais pas ce qui va se passer.
Et je voudrais qu'on fasse un gros plan sur l'union des cultures festives LGBTQIA+, dont vos deux formations sont membres. Du coup, est-ce que vous...
Non, pas m'énerve.
Ah,
mais c'est
pardon.
Pas grave, on soutient quand même.
Donc, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Quelles sont les actions? Voilà.
Oui, on a essayé de s'organiser entre organisateurs, justement, de se réunir pour essayer de faire entendre notre voix, parce qu'on voyait qu'il y a des choses qu'elle allait peut-être faire cet été, et on voulait pas passer à côté des opportunités.
Bien sûr.
Qu'ils pouvaient avoir dans certains festivals, dans des lieux que la mairie de Paris pouvait éventuellement mettre à disposition. Donc on a essayé de se réunir un peu de s'organiser pour essayer de faire entendre notre voix. Après, ça marche ou ça marche pas, mais c'est vrai que Bon, voilà, c'est ça essentiellement, enfin, si je ne me trompe pas, on est là-dessus. Il y a eu une grosse envie au début, et c'est vrai qu'après les choses sont un peu effritées et sont redevenues un petit peu à la normale, on va dire. Hein. Mais c'était quand même assez chouette, et il y a quand même une espèce de solidarité quand même entre orgas, même si après des fois il y avait toujours les mêmes animosités qui arrivent de temps en temps, ouais. Quoi, mais il y avait quand même solidarité, on est tous dans la même merde, donc autant se serrer les coudes, parce que c'est vrai que là on va en avoir besoin, donc c'était le truc essentiel, c'était l'essence de ça, de cette union, c'est ça.
Et ça a permis à des gens qui ne s'étaient jamais rencontrés de se rencontrer, parce que
oui, aussi, oui.
Parce que y a, voilà, chacun est un peu dans son couloir, c'est-à-dire
mais justement,
les technos rencontrent pas la house, vous voyez, il y a
j'avais trouvé ça presque j'avais trouvé ça presque triste ce jour-là quand on s'était tous retrouvés dans cette pièce et de me dire en fait, on a attendu une pandémie pour se retrouver et discuter entre nous.
Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Parce que on a un peu la tête dans le guidon aussi, parce qu'il faut faire des soirées, il y a des trucs et tout ça, donc et on va pas forcément voir ce que font les autres et tout ça, voilà. Et puis quand on est un peu vieux aussi, c'est compliqué de sentir tous les week-ends. Quand on l'a fait pendant toute sa jeunesse, mais du jeudi jusqu'au dimanche, parfois même jusqu'au lundi. Mais ça, c'est ça, je trouve le point positif, c'est ça. C'est-à-dire que des gens qui se rencontraient pas parce qu'ils étaient dans leur, c'est surtout des styles musicaux, quoi, là, ouais. qui définissent un peu des tribus, ça, et puis voilà, et qui font que bon.
Et du coup, aujourd'hui, alors on entend tout et son contraire. Je crois que Emmanuel Macron, hier ou avant-hier sur BFM, a parlé du 21 juin pour les boîtes de nuit. On entend 1er juillet, 2 juillet.
Non,
vous avez des infos?
Qu'est-ce que la presse. J'ai pas des infos directement.
Tu n'as pas Emmanuel Macron.
Tu connais pas Brigitte.
Non, mais apparemment, les syndicats. En tout cas, en ce qui concerne les discothèques, hein, là, je parle des discothèques, puisque il y a déjà des open air qui sont prévus cet été, etc. Mais en ce qui concerne les discothèques, réouverture, apparemment, soit le 30 juin, là, ça vient de sortir, le 2 juillet, avec un protocole assez serré, c'est-à-dire passe sanitaire, test, une jauge, voilà. Donc, ils sont encore en train de négocier ça avec le gouvernement.
Oui, enfin.
Et la date du 21 juin, c'était ce qu'ils appelaient, voilà, avant le 21 juin, on vous donnera une date de rouverture. Mais ça ne voulait pas dire ouverture le 21 juin.
On comprend ce qu'on a envie de comprendre, des fois.
Voilà. Non, parce que c'est ce que réclamaient les syndicats et les patrons d'établissements, les clubs, c'était que, alors que tout le monde avait une date de réouverture, tout secteur confondu, le seul secteur qui n'en avait pas, c'était ce secteur-là. Et pourquoi? Parce que on peut, nous, à la limite, qu'on nous dise vous rouvrez le 1er septembre, c'est pas un problème. Mais au moins, il y a une
perspective.
Date. Voilà, qu'il ne soit pas normal.
Mais je pense qu'on est loin de crier hurrah aussi pour la réouverture des clubs, parce qu'on vient d'apprendre, par exemple, que pour la fête de la musique, on n'a pas le droit d'être debout, il n'y a pas le droit d'avoir d'attroupement alors qu'on est dehors. C'est le 21 juin, donc ça m'étonnerait que le 2 juillet, en fait, on nous laisse ouvrir des clubs, ou auquel cas, si on nous laisse ouvrir des clubs. Je pense que c'est complètement hors de propos d'ouvrir un club où les gens sont assis.
Oui, bah oui. Ouais.
En fait.
Alors, ils devront consommer. Alors là encore, c'est ce que j'ai lu, enfin, dans des médias un peu sérieux. Ils devront consommer assis. Ils pourront danser debout quand même. Super, génial.
Avec un masque. Ouais. Super.
Mais on ne sait pas encore s'ils devront. On pourra danser avec un masque, sans masque. Alors c'est assez, voilà, c'est, il y a les histoires de ventilation aussi. Ouais. Normalement, tous les établissements devront être inspectés pour voir si la ventilation est conforme. Alors vous imaginez le nombre d'établissements de nuit qu'il y a en France. Si entre le 21 juin et le 1er juillet, il faut que tous les établissements soient inspectés. Enfin bon, c'est un truc. Pour l'instant, on ne connaît pas les détails, mais le truc est quand même intéressant. C'est que les différents ministères n'ont pas démenti cette information. Généralement, ils montent au créneau en disant non, c'est totalement faux. On a vu ce qui s'était passé avec ce qui s'est passé à l'Assemblée avec le cafouillage autour de l'amendement et tout ça. Bref, on nous annonçait une réouverture et finalement non. Là, il semble qu'il y ait des choses dans les tuyaux, il y ait des négociations sur les protocoles et que ça sente quand même bon pour une réouverture pour l'été. Voilà. Sous quelles conditions, c'est encore.
Ben, c'est ça. Ouais. Alors qu'il y a il peut y avoir des lieux dehors, donc il pourrait.
Il y a déjà des lieux dehors prévus. Il y a comme les salles des fêtes vont pouvoir rouvrir. Et dans la salle des fêtes, il y a fête. Voilà. Ouais. Donc moi, si demain je veux faire une soirée qui s'appelle mariage,
Mariagi.
Oui, mais la question, encore une fois, c'est est-ce qu'on pourra danser ou non ?
Ouais.
Parce que je me souviens que l'été dernier, sur les open air, légalement, on n'avait pas le droit de danser, je crois.
Ouais, c'est binaire.
Moi, j'ai dansé avec un masque au Cabaret Sauvage, ouais. L'été dernier. C'était...
Mais c'est un non-sens de danser avec un masque.
Il y avait le truc au doc, là aussi.
Exactement, ouais. Border City.
Ouais, où tu pouvais danser, mais avec un masque.
Et danser avec un masque.
Oui, mais sauf qu'en fait, ça ne s'appliquait pas du tout. On ne va pas se mentir.
Ouais, tu
on va pas se mentir, ça ne s'appliquait pas du tout parce que c'est complètement débile de nous demander de danser avec des masques. Enfin, je comprends qu'il y a une pandémie, mais je suis juste un peu en colère parce que. Quand
nous, à la Ouette, on l'a fait. Elles ont dansé avec leur masque. Mais bon, après, c'était.
Bravo à toi, Rex, si t'as réussi à le faire respecter. Mais moi, j'ai assisté à des soirées où t'avais les orgas qui essayaient de courir partout pour, pendant la première heure. Donc, oui, t'as tout le monde qui porte son masque, mais au bout d'un moment, tout le monde est bourré ou défoncé. Donc, ça devient compliqué de porter son masque. Je jette pas la pierre sur les orgas ni sur les personnes défoncées, mais juste, faut se rendre compte des réalités.
Oui, oui, tout à fait. Ouais.
Alors, on arrive à la fin de cette émission. Rag, t'as deux actions en juin. La première, c'est la ZUT, zone d'urgence temporaire artistique. Ça va être dehors. Est-ce que tu peux nous raconter ?
C'est dehors. C'est Technopole qui fait ça, qui investit le parc de la Villette, où il y aura pas mal de lieux. Donc il y a le lieu sous périph, là, le chapiteau,
le kilomètre 25.
Après, il va y avoir aussi des soirées. DJ qui va être sur la prairie, qui est au niveau du cinéma plein air aussi. Voilà, mais pareil, hein, moi le 18 juin, c'est en format assis avec. C'est le protocole qui est comme ça. Donc c'est un format assis. Voilà, donc on va. C'est ça, c'est un format assis. Donc je vais jouer à 18h devant un public assis. Donc je vais faire des choses un peu ambiance, ce genre de choses.
Avec une petite couverture.
Voilà, c'est bon. C'est pas très. Ça te permet aussi de découvrir d'autres choses. Hein. Même pour nous artistes, on a dû s'adapter. Hein. Moi, j'essaye de faire des trucs beaucoup plus ambiants maintenant, qui sont plus dans des trucs un peu. Un peu lunaires. Mais du coup, c'est intéressant aussi de se remettre en question. Voilà, donc il y a ça le 18 juin, et après, oui, on fait un mini festival qui s'appelle We Love Gwyn. Hein. Vous verrez la référence. Et ça sera au Cabaret Sauvage en extérieur, pareil. Donc, mais pareil, hein, ça sera un format. Officiellement assis, désolé, officieusement assis aussi.
Et Yannick, du coup, tu as des exclus, des
infos. Tout peut changer demain. Non, moi, en dehors, c'est pas vraiment du clubbing, mais j'ai été invité par Jean-Pierre Blanc, qui est le patron de la Villa Noailles à Hyères, qui fait le festival de la mode tous les ans. Mais là, c'est pour les design parades qui sont consacrées au design d'intérieur et à l'architecture d'intérieur et au design à Toulon et à Hyères. Et je vais être le DJ résident de ces 4 jours de festival.
Oh, cool.
Voilà, au soleil. Dans ce très bel endroit qui est la Villa Noailles à Hyères, qui est magnifique, qui est un centre d'art contemporain. Donc j'invite tout le monde, ceux qui sont dans le coin, de venir nous voir, c'est fin juin. Et je vais mixer aussi, toujours à l'invitation de Jean-Pierre, à la Nuit des Étoiles qui est sur l'île du Levant. Au large de Hyères, et qui est une île naturiste, en partie naturiste. Donc, cool.
Bon
voilà.
Projet, oui.
Ah ouais, mixer nu, je crois que c'est. Voilà,
c'est ça. Première.
Je ne peux pas tout savoir.
Et Amina, tu as des dates de prévues? Pour le moment, tu es dans l'expectative de.
J'étais censé jouer ici le 21 juin à la Folie pour Mustang, mais je sais pas encore ce qu'il en est. Je pense que ça me paraît compromis un peu, étant donné que je pense que l'équipe de À la Folie fait de son mieux, mais il y a ce truc qui nous est tombé comme un coup de massue où en fait on n'a pas le droit de danser pour la fête de la musique et pas le droit au regroupement. Donc on verra bien ce qui va se passer. Et sinon, cet été, j'ai un booking à Kilomètre 25, qui est un club sous le périph, pareil, qui fait partie des nouveaux clubs qui ont ouvert, qui, si je ne dis pas de bêtises, a été géré par le Glazart. Et ça sera pour la soirée Gamma, qui est un collectif, qui a en fait plusieurs collectifs qui sont associés. Donc il y a la boîte de nuit L'œil, Spectrum, Culotté et La Miste. Voilà.
D'accord.
Ben merci infiniment à toutes et à tous. Merci Rag, merci Yannick, merci Amine.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Et merci Audrey de La Folie de nous avoir accueillis. Vous pouvez retrouver Visible sur toutes vos applis de podcast. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous mettre 5 étoiles sur iTunes, ça nous renforce en visibilité. N'hésitez pas à partager l'épisode, à le faire écouter à votre grand-mère ou à votre garagiste. À bientôt.
Merci.